Georges Samu, bonjour.
Dans quelle langue faut-il répondre ?
Comme tu veux.
Et bonjour tout le monde, je peux parler en patois ou en français, comme vous voudrez.
Alors c'est, on fait connaissance avec toi, essayer de comprendre cette chose assez étonnante. Finalement le patois c'est une langue qui habite beaucoup de gens comme toi. Et pour toi finalement tu dis que tu penses et tu sens les choses en patois.
Oui, je pense en patois, au son du impotué. Mais c'est approché du yavin temps, je m'en suis aperçu il y a une vingtaine d'années. Je pense en patois, quand je suis tout seul, je réfléchis, je me parle à moi-même en patois. Me coutard du tussou.
Alors avec toi, donc, on va essayer tout au long de cette année, puis avec d'autres personnes. On espère que des gens qui nous écoutent aujourd'hui auront intérêt à se dire, tiens, mais pourquoi pas ? Moi aussi, je connais des tas de choses, des tas d'histoires qui m'ont été racontées, ou bien j'ai moi-même... Alors, une émission régulière en patois avec toi, puis avec d'autres personnes donc, qui vont participer à cet effort. À ton avis, Jean, il y a un enjeu là, parce que ça risque de se perdre, tout ce trésor.
Ah oui, je crois que nous sommes, enfin, je suis un des derniers à parler patois, à être imprégné de patois, un des derniers. J'ai encore dans mon pays, à Saint-Jean-sur-les-Mieux, là-haut, des amis, des camarades qui, de mon âge qui parlent patois, qui pensent en patois comme moi, mais leurs enfants, leurs petits-enfants comprennent le patois, mais ne savent plus le parler. L'an et cheblot.
Traduire.
Ils l'ont oublié. Peut-être ne l'ont-ils jamais connu profondément.
Ce qui est frappant dans cette langue, c'est qu'elle est tellement humaine, tellement belle aussi, parce qu'elle est pleine de la vie des hommes et des femmes qui l'a parlé.
Ah oui, elle est pleine de la vie. Elle est au ras du sol. Il y a des expressions qui sont pittoresques. Il y en a qui ne sont pas très correctes, d'ailleurs. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. C'est très intéressant, c'est très drôle à la fois.
On essayera de les traduire, même si elles ne sont pas très correctes, elles donnent quand même aussi toute la profondeur des choses.
C'est exact. Il y a toute une vie derrière, il y a tout un passé, il y a toute une vie, toute une culture, toute une philosophie, toute une sagesse derrière ce patois que j'aime beaucoup.
Alors, ta vie, Jean, c'est Saint-Jean-sur-les-Mieux, au ras des sapins là-haut.
Ah oui, je suis né au bord des sapins, j'ai failli naître auvergnat. Eh bien, mon corps... Eh bien, moi, être un Auvergnat. J'aurais une histoire, d'ailleurs, au sujet des Auvergnats, mais je la raconterai une autre fois.
Jean, tu es venu me voir avec ton cahier où tu as noté des tas de choses, des tas de verbes, des tas d'histoires. Il y aura de quoi faire. Ça veut dire que cette mémoire, tu as besoin de la refixer aussi, parce que finalement, ça s'est imprégné, puis ça a été recouvert par des tas de choses, et maintenant, ça revient.
Oui, ça n'a jamais été complètement occulté. Ça a toujours été un fond qui est resté au moins. Ça n'a jamais fondu. L'iceberg n'a jamais fondu. Seulement, tant que j'étais responsable à Saint-Étienne-Saint-Bonnet-le-Château ou ailleurs, je n'avais pas le temps. Et depuis 4 ans où je suis à faire, alors j'ai fait mon cahier, j'ai fait la grammaire, j'ai trouvé mes verbes, mes pluriels, j'ai fait des découvertes moi-même, parce que nous appliquons des règles sans le savoir. Et ces règles, elles sont automatiques. Pourquoi c'est comme ça, je n'en sais rien. Ainsi, comme je le disais tout à l'heure, quand nous racontons une histoire en patois, nous la racontons au passé simple. On n'emploie pas le passé composé, mais le passé simple. Il n'y a pas très longtemps, je m'en suis aperçu.
Donc, toute une série de conventions qui ont été, en fait, inculquées de la naissance. Oui. Il n'y a pas d'apprentissage, si ce n'est la vie, justement, et les parents qui parlaient patois et que tu as écouté.
L'apprentissage, c'est la vie. On m'a toujours parlé patois. Mais dans ma famille, on avait quand même pas mal de relations avec un tas de gens. On recevait des gens avec qui on parlait français. Ce qui fait que moi, mes parents ne me parlaient pas toi. Et quand des gens venaient, on nous parlait français et je répondais en français. Parce qu'il faut dire aussi qu'à cette époque-là, en 1925-30, nous avions honte de parler pas toi. Et je me souviens, quand nous allions à l'école, nous faisions cours, on se faisait courir par l'institutrice. Je me souviens une fois, nous étions en train de jouer aux billes et nous parlions pas toi. L'institutrice passe, elle nous dispute, mais vous êtes venu à l'école pour parler patois, pour apprendre le français. Alors je veux que vous parliez français. Minute de silence. Et au bout d'un moment, le plus courageux, il a dit « Allez, joue ! Allez, Otzomak ! » Alors nous avons continué à parler français pendant qu'elle était là. Puis quand elle a eu disparu, bien sûr, on a remis le disque automatique. « Oye, nous c'est un tour de Kutorza, un potué. »
Donc, cette langue qui cohabitait avec le français, il y a un problème surprenant chez toi, c'est que tu dis que tu n'as jamais prié en patois.
Ah oui, je ne sais pas prier en patois. Et je serais très embarrassé si on me disait de faire un sermon en patois, je le ferais, mais je serais emprunté, mal à l'aise, parce qu'à Dieu, on parlait français. Jamais ma grand-mère, mon grand-père, jamais mes parents n'ont parlé patois à Dieu. Parce que Dieu, c'était Dieu. Et on pensait que Dieu ne s'abaissait pas. Comme l'institutrice de l'école, Dieu ne s'abaissait pas à parler patois et à comprendre le patois. Par respect, il fallait lui parler français.
Alors, cette espèce de révérence, de distinction sociale, est-ce qu'elle est quand même un peu surprenante, quoi ? Parce que finalement, Dieu était très, très, très lointain, très différent, très distant.
Ah oui. Dieu, c'était pas le petit copain chez nous. Hein. Ah, Dieu, c'était pas rien. Ah oui, ça, c'était toujours comme ça chez nous. Quand on parlait à Dieu, je me souviens, quand on faisait la prière ensemble le soir, mon père posait sa casquette, il mettait ses genoux sur la chaise, comme ça, puis on faisait la prière. Il ne fallait pas être dérangé. Il n'y a pas que vis-à-vis de Dieu. Quand je me souviens, quand mon père qui avait une bonne culture primaire, il est allé en classe à Saint-Aubrin à Montbrison, à l'âge de 14-15 ans, il en avait tiré beaucoup. Quand il rencontrait quelqu'un qui parlait patois, mais qui avait un poste important, le secrétaire de mairie, le notaire ou bien un autre, il lui parlait en français. Par respect, mon père parlait en français aux gens un peu élevés qui comprenaient aussi le patois.
Donc l'usage de la langue était aussi le signe d'une certaine distinction sociale.
Le français était le signe d'une distinction sociale, alors que le patois nous semblait être un langage un peu d'arriéré.
Et pourtant, quelle richesse, quelle valeur.
Eh oui, bien sûr. Oui, mais ça, on ne le savait pas.
Alors, beaucoup d'histoires liées à la vie de la ferme. Chez vous, par exemple, la vie de la ferme, chez vous, c'était quand même avant l'évolution technique. Finalement, après la guerre de 14, il n'y avait pas beaucoup de mécanismes, beaucoup de progrès scientifiques. C'était une vie très, très, très proche, on pourrait dire, d'une agriculture primitive.
D'accord. Moi, je me souviens, mes parents, j'habitais au Verdier, là-haut, mes parents avaient une ferme de 5 hectares. On avait 5 vaches. On avait aussi 4 hectares de bois, de sapins, qui aidaient à vivre quand même, qui aidaient surtout à payer les pensions, puisque nous étions, mes sœurs et moi, on était pensionnaires à Montbrison ou ailleurs. Mais je me souviens d'avoir vu arriver les premières batteuses. Les premières batteuses en 1928-30, il y avait les grosses fermes, celles qui faisaient une grosse meille, comme on disait, qui battaient pendant une demi-journée. Mais chez nous, on battait au fléau. On avait 5 hectares, on faisait. Mon père, il faisait au faujan 5 ou 6 cutsous de blois, 5 ou 6 plongeons de blé. Alors, écouillant les coussous, tu lui vas, on battait au fléau tout l'hiver. Mon père commençait à battre les gerbes pour faire les semences au mois de septembre, puis le reste, on battait quand on avait le temps.
Donc une vie très modeste, très, très simple, avec des moyens, finalement, l'économie de la ferme était très, 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 très pauvre.
Elle était très pauvre, oui. Chez nous, par exemple, on a toujours battu au fléau, on a toujours fauché à la daille, on battait au fléau à l'écoussou, on moissonnait au volant à la faucille. Mon père avait une vigne à Saint-Georges-de-Ville, à une douzaine de kilomètres, et on avait les mêmes voisins là-bas que ceux de la montagne. Nous étions tous propriétaires d'une petite vigne, où chacun faisait son vin. Alors, la vie était simple. Ma mère allait le mardi au marché, au Pourtèves-Sopidanche. L'Opidanche, c'était les produits de la ferme, le beurre, le fromage, les œufs, des poulets. L'opidanche servait à nourrir la famille dans la semaine. Quand mon père vendait un veau ou un petit porc, eh bien c'était pour acheter du matériel, pour les travaux et les réparations.
Donc une vie, là encore, d'une économie très, très rurale, très, très simple. Est-ce que finalement, la langue n'est pas totalement adaptée aussi à ces échanges économiques, à ce rapport à la nature très, très simple et très direct?
Bien sûr, la langue, elle reflète notre vie. Nous avons des expressions qui sont très proches de la nature, qui sont très terre-à-terre, très vulgaires, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont drôles, qui sont le reflet de ce qu'on vivait.
Il ne s'expliquerait pas autrement, enfin, c'est-à-dire que pour des gens habitant en ville, ça paraît très lointain quand même.
Ça paraît très lointain, nous avons des façons de parler qui désarçonnent les gens de la ville, ils ne comprennent pas.
Pourtant, peut-être que, pour revenir à des choses plus religieuses, les paraboles de l'Évangile, par exemple, pour toi, ça a été beaucoup plus accessible.
Les paraboles de l'Évangile, où c'était des histoires, comme on en raconte tant chez nous, qui avaient un sens. C'est exact, parce que nous aussi, nous racontions, il y avait des histoires qui avaient un sens, des façons de parler qui avaient une signification.
Et un sens qui n'est pas premier, mais qui appelle à dévoiler des réalités plus subtiles.
Exactement, ça dévoile une réalité, c'est exact. Oui, c'est exact.
Alors, ce qui est surprenant, c'est le bonheur de vivre quand même de cette langue.
Oui, on était on était heureux, puis on savait rire. Oui, on savait se distraire ensemble. On savait avoir de l'humour. Il y avait, ma grand-mère était très forte pour ses réparties, pour mettre les gens en boîte, pour relever leur petit côté, pour dire quelque chose d'elle ou de son mari ou de nous. C'était très drôle.
Et Georges Chassagnu, on essaiera semaine après semaine de découvrir la richesse de cette langue à travers des expressions, des contes. On essaiera de traduire aussi parce que c'est pas tout simple. Et puis un appel donc à l'antenne.
Je pense que ce qui serait intéressant, c'est que d'autres viennent aussi parler, parce que le patois que je parle, c'est un patois bien localisé. Ce n'est pas le patois de Marolles. Pourquoi pas le patois de Vimereux ? Entre Saint-Jean et Marolles, il y a Chabannes d'un côté. De l'autre côté, il y a un petit village, le Quéret, et entre les deux, une rivière. À 1 kilomètre à vol d'oiseau, deux patois différents. D'un côté, on dit « yo », c'est le « ego », la langue d'oc, Marolles. Et de mon côté, on dit « me », c'est le « mais » latin. Deux langues différentes. On se comprend, on se moque les uns des autres, mais on se comprend puis on s'aime bien quand même.
Donc un appel à ce que tous les gens qui ont encore de la mémoire et de l'usage de cette vieille langue n'hésitent pas à venir nous rejoindre, parler avec Jean, avec d'autres. On va essayer de créer autour de cette émission toute une démarche, toute une manière de communiquer et de se comprendre.
Ça serait intéressant de revenir à nos sources communes, même si elles ne sont pas toutes pareilles, mais ça serait très intéressant, je pense.
Merci Jean.